Notre Dieu, notre Père, nous demande encore une fois, pour la deuxième fois aujourd'hui, en ta sainte présence. Tu avais décidé de toute éternité que ce moment, tu nous l'accordais, ce moment d'adoration, ce moment d'étude de ta sainte parole, ce moment de louange, Seigneur, et nous apprécions ce que tu nous as donné. Donne-nous de prendre conscience de la grandeur de la personne devant laquelle nous nous trouvons, devant toi, Seigneur, qui est infini, d'une grandeur infinie, d'une bonté infinie, d'une majesté au-delà de toute imagination. Seigneur, tu es saint, tu es omniprésent, omniscient, tu es plein de sagesse, plein de bonté, et tu nous as fait grâce en toute éternité en nous accordant la vie éternelle. Quel cadeau immense et grand. Nous remercions pour Christ aussi, qui est venu sur cette terre, Seigneur, et en acceptant de renoncer à ses attributs divins, du moins dans sa manifestation, dans toute leur pleine manifestation. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour l'œuvre de Christ, pour sa personne, pour sa bonté, pour son amour envers nous, pour les souffrances qu'il a accepté de porter à notre place, pour l'œuvre qu'il a accomplie aussi à notre place. Nous te rendons grâce aussi pour le Saint-Esprit qui nous éclaire, nous dirige, nous aime, nous conseille. Et Seigneur, nous savons que nous sommes fragiles et nous reconnaissons pécheurs. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour nos péchés ce soir et te demander de nous redonner la pleine communion avec toi de façon à ce que nous puissions avoir une communication, Seigneur, avec toi ce soir, que tu nous parles, tu parles dans notre cœur, tu nous fasses grandir. Nous te remercions encore une fois de toutes tes bontés. Nous prions pour les frères qui sont assemblés ce soir. Nous prions aussi pour toutes nos requêtes que nous avons chacun dans nos cœurs concernant les personnes que nous aimerions avoir sauvées, concernant les contacts à qui nous avons déjà parlé de l'Évangile. Et Seigneur, nous te prions d'ouvrir leur cœur afin qu'ils aient la vie éternelle. Encore une fois, nous te demandons de nous éclairer ce soir, de faire en sorte qu'on comprenne les Saintes Écritures, qu'on comprenne surtout le cœur de l'Évangile, la raison pour laquelle ton Fils est venu sur cette terre, qu'on comprenne cette œuvre si grandiose et qu'on ne se laisse pas, Seigneur, entraîner dans l'apostasie. Nous avons besoin de ta lumière et de ta grâce pour faire cela. Nous demandons toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Amen. Amen.
Donc, on avait vu actuellement deux leçons. La première, c'était le calvinisme, qu'est-ce que c'est? Et l'autre, le calvinisme, est-ce nouveau? Le calvinisme, qu'est-ce que c'est? On avait vu que c'était pas uniquement la pensée de Calvin. On a dit, c'est pas tout ce que Calvin a écrit. C'est pas toutes les positions que Calvin a adoptées théologiquement. C'est, grosso modo, surtout ce qu'il a adopté dans ses positions sur la souveraineté de Dieu, dans ses positions sur le salut. Mais il y a bien d'autres positions qu'il a adoptées qu'aujourd'hui, on ne suivrait pas. Comme par exemple, le baptême des bébés et peut-être d'autres. Mais qu'on ne rentre pas dans l'ensemble de ce qu'il a enseigné pour regarder ce qu'on garde puis de regarder ce qu'on rejette. Mais comme tout théologien, c'est un homme et il avait ses limites. Et il faut aussi replacer pourquoi il a gardé certaines doctrines, mais à une époque précise où la pression n'était pas forte, ordinaire. C'était pour défendre ce qu'il défendait à cette époque-là, c'était la vie ou la mort. On pouvait même t'exécuter pour s'opposer à l'Église catholique qui était extrêmement puissante à cette époque-là. Alors, il y a ça, il faut d'abord se souvenir que c'est pas uniquement la pensée de Calvin. Deuxièmement, c'est pas non plus résumé juste aux cinq points du calvinisme, les traditionnels cinq points du calvinisme qu'on appelle. Alors, c'est pas uniquement ça, c'est un système de pensée théologique sur le salut en particulier, sur la souveraineté de Dieu en particulier, mais aussi sur tout un ensemble de doctrines de la Bible qu'on a vu dans le premier enseignement. Dans le deuxième enseignement, souvent les personnes qui vont regarder les doctrines de la grâce ou le calvinisme vont dire « Ah, ben ça c'est nouveau, c'est Calvin qui a inventé ça dans les années 1500, là. C'est nouveau, parce qu'avant c'était assez existant. » Alors, on a vu la semaine passée que ça existait depuis, particulièrement, Gill, dans son livre « The Cause and Effect of Truth », non seulement il va réfuter tous les versets qui semblent universels, qui semblent réfuter le fait que Dieu choisit ceux à qui il voulait accorder le salut, mais il y a une partie de ce livre-là qui va donner les noms de tous les écrivains et théologiens du premier siècle, aller jusqu'aux années 400 à peu près. Alors, quand on étudie ça, on se rend compte que c'est la partie que, quand on n'a pas de connaissances historiques profondes, c'est la partie qu'on a plus de misère à dire que le calvinisme vient depuis Paul à venir jusqu'à aujourd'hui. Mais Gill a comblé ça à cause de sa très, très vaste culture. Il a tout lu ce qui était écrit par ce qu'on appelle les pères de l'Église, et il a démontré que cette croyance-là a toujours existé jusqu'à cette époque-là. Après ça, on a eu le grand Saint-Augustin, et après ça, on a vu aussi qu'historiquement, du 6e siècle jusqu'au 10e siècle, il y avait eu plusieurs, pas dénominations, mais lignées de chrétiens. Après ça, il y a eu au Moyen-Âge, et jusqu'à Calvin, puis c'est sûr qu'après Calvin, là, on peut, historiquement, c'est beaucoup plus facile de voir la lignée de tous ceux qui ont cru ça, à partir de Calvin jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus. Donc, je dirais pas qu'il y a plus de matériel, mais je dirais que les gens, en général, vont avoir plus de connaissances historiques sur cette période-là, période Moyen-Âge et après, que sur la période 2e, 3e siècle, 4e siècle. Parce que, dans le fond, à part des théologiens là, de l'Église ou des théologiens de l'histoire grecque, l'histoire du monde de cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont énormément de connaissances sur cette époque-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on va regarder comme troisième leçon, c'est « Calvinisme, est-ce biblique? » On va voir une couple de versets avant de commencer. Acte 17, 11. Acte 17, verset 11. Alors, c'est un verset pour démontrer, dans le fond, qu'il faut avoir la bonne attitude. Quand on apprend quelque chose de biblique, ou du moins quelqu'un nous arrive avec quelque chose qui pour nous autres est nouveau, bien, dans le fond, l'attitude qu'il faut avoir, c'est une attitude de réceptivité, une attitude d'ouverture. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude. Examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors, c'est pas moi comment j'essaierai d'enseigner ce qu'on appelle les doctrines de la grâce ou le calvinisme. Si j'enseigne ça et que je n'ai pas de verset pour vous prouver que c'est vrai, comme chrétien, c'est votre devoir de le rejeter. Maintenant, si j'enseigne quelque chose puis que tu vas voir les Écritures, c'est ça que les Écritures disent. Là, c'est un autre paire de manches, c'est le Seigneur qui te parle. Alors, c'est pas de te soumettre à la volonté d'un homme ou à un système théologique, mais bien plutôt de te soumettre à ce que Dieu enseigne. Alors, c'est le verset qui dit simplement, soyons ouverts pour voir si ce que j'enseigne est selon les Écritures. Deuxième verset, psaume 19, verset 8. Alors, c'est un verset qui parle de la perfection des Écritures. Alors, quand on dit que les Écritures, c'est la parole de Dieu, si vraiment on croit ce qu'on dit, c'est que ce qui est écrit là, c'est comme c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est ce que le verset dit, la loi de l'Éternel, quand on parle de loi de l'Éternel, si c'est l'ensemble de la Bible, c'est comme s'il disait, la Bible est parfaite. Alors, parfaite, ça veut dire que dans l'original hébreu et dans l'original grec, tous les mots sont directement soufflés de Dieu, inspirés de Dieu. Comme dans 2 Timothée 3,16, le mot grec qui est utilisé veut dire soufflé de Dieu. Toute écriture est soufflée de Dieu. Inspirée, ils l'ont traduit par inspiré, mais Le mot grec veut dire souffler de Dieu. Ça veut dire que tous les mots de l'Évangile, tous les mots de la Bible ont été directement soufflés de Dieu. Alors, pourquoi je dis ça avant qu'on commence? C'est pour établir notre autorité. Dieu dit que quand on veut apprendre quelque chose sur un sujet, il faut être ouvert et examiner ce qu'on dit à la lumière des Écritures. Premier principe. Deuxième principe, la Bible est parfaite. Alors, tu ne peux pas dire que la Bible se contredit. Il peut y avoir des versets qui semblent difficiles à harmoniser. Et c'est là la difficulté de tout système théologique d'ailleurs. Même les Arméniens vont avoir des grandes difficultés à harmoniser leur pensée avec les versets qui semblent dire que c'est Dieu qui choisit les hommes à qui il veut accorder le salut. Et, sur notre côté, nous, on dit que c'est Dieu qui choisit les hommes à qui il veut donner le salut, mais il y a des versets qui ont l'air de vouloir dire que c'est tous les hommes. Alors, là, tous les systèmes théologiques, face à ces versets-là, ont le problème de ce qu'on appelle l'harmonisation. Alors, faut-il aller regarder, est-ce que Dieu peut se contredire? La Bible dit que Dieu, la loi de Dieu est parfaite. Si sa loi est parfaite, si sa parole est parfaite, est-ce que ça se peut qu'il se contredise? Si au départ, tu dis qu'il ne se contredit pas, il y a un des deux systèmes qui est faux. Il faut être les deux en même temps. Tu ne peux pas défendre les deux en même temps. C'est complètement illogique. Quand Dieu parle, il ne se contredit pas. Alors, s'il ne se contredit pas, les versets qui ont l'air à contredire, peu importe le camp que tu choisis, il faut que tu les expliques. Il faut que tu les harmonises. Parce que l'Écriture, dans son ensemble, est parfaite, donc harmonieuse, et Dieu ne se contredit pas. Et c'est là qu'on va voir que, quand on va étudier ça en profondeur, un des problèmes de ceux qui sont arméniens, c'est qu'ils vont prendre les Écritures, c'est comme si une personne va lire les Écritures, mais quand il rencontre un problème, il faut qu'il explique le problème par sa raison. Tandis que quand tu crois vraiment les Écritures avec une attitude enfantine, tu crois ce que Dieu dit, même si tu n'es pas capable de l'expliquer. Parce qu'il y a des choses dans les doctrines de la grâce, si tu me demandes pourquoi Dieu a choisi toi à te sauver, ça se peut que dans ton pays, il y a peut-être 200 personnes, 1000 personnes dans ta famille. Pourquoi il a sauvé toi? Pourquoi il n'a pas sauvé les autres? Je ne sais pas. Dieu dit qu'il a choisi les hommes selon son bon plaisir. Je ne peux pas expliquer, je ne peux pas rentrer dans le cerveau. On peut parler de Dieu que le cerveau, mais je ne peux pas rentrer dans la pensée de Dieu et d'essayer d'y expliquer pourquoi il a fait les choses. C'est impossible. On ne peut pas. Dieu dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et qu'on est incapable de saisir sa pensée. On est trop petit pour saisir les pensées de Dieu. Il y a des choses qu'il dit là-dedans, et quand on rentre dans la doctrine de la prédestination, de l'élection, il y a des choses qui sont difficiles à avaler, parce qu'il faudrait tout. Les hommes cherchent toujours à expliquer les choses par leur raison. Ah, ben ça ne se peut pas que Dieu choisisse avec certaines personnes et qu'il n'ait pas accordé à l'autre. Ben donc, si Dieu a fait ça, donc Dieu n'est pas juste, et là, il commence à raisonner. Est-ce que tu soumets ta raison à ce que Dieu dit? Ou est-ce que tu mets ta raison au-dessus des Écritures et tu cherches à dire, ben là, ça se peut pas qu'il veuille dire ça. Là. Parce que s'il dit ça, ça veut dire si, puis ça veut dire ça. Tu sais, tu deviens comme un critique de la parole de Dieu. Alors, un des premiers points que je voudrais amener, c'est que tous ceux qui se disent chrétiens, dans n'importe quel milieu, que ce soit dans les milieux pentecôtistes, dans les milieux néo-évangéliques, dans les milieux calvinistes, dans les milieux, n'importe quel milieu qui disent chrétiens, ils vont tous dire quelque part que la parole de Dieu, c'est leur autorité première. Tout le monde dit ça. Si c'est vrai que la parole de Dieu est une autorité première, comment ça se fait qu'il y a tant de contradictions entre les systèmes? Tout le monde ne peut pas avoir raison, c'est impossible. Alors, c'est la parole de Dieu qu'il faut qu'il vienne trancher sur les enseignements. Ce que tu apprends, là, ce que la Bible dit, ce que les hommes disent, il faut toujours que tu viennes voir à la lumière des Écritures. On va prendre un exemple. Les témoins de Jéhovah. ils vont dire que les Écritures, c'est dans leur... c'est la parole de Dieu. Là, un moment donné, ils vont m'avancer une idée, ils vont dire, Jésus-Christ est un ange. Jésus-Christ est une créature. Alors, je vais lui dire, montre-moi les Écritures. Et si moi, je lis les Écritures et je peux facilement déterminer avec les Écritures que Dieu, Jésus-Christ, n'est pas une créature ni un ange, à ce moment-là, je viens de défaire leur pensée théologique. Ce n'est pas bon. C'est comme ce qu'on a vu le verset de l'heure. Ils me disent quelque chose, j'examine les Écritures, les Écritures disent non, 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 ça ne marche pas ce que tu dis. Tu le rejettes. Alors, il y a quatre attitudes fondamentales qu'on peut faire avec les Écritures. C'est bien important de réaliser ça. Et c'est ce que la Bible nous dit que certains hommes font avec les Écritures aussi. Premièrement, il y a ajouté. Je donne un exemple d'ajout. Les catholiques, ils disent que c'est la parole de Dieu. Ils ont 66, les autres, ils ont 113. Donc, ils ont 7 livres de plus que nous autres. Ils ont ajouté. Deuxième chose qu'ils ont ajouté, ce qu'on appelle la tradition. Pour eux, la tradition, c'est l'ensemble de l'expérience des écrits de toute la catholicité de tout temps. Ils pigent là-dedans comme si ça avait la même autorité que la Bible elle-même. Et quand ils bâtissent des doctrines, ils mélangent cette pensée-là avec la Bible et là, ils cherchent à justifier leur système. Alors, ils mettent la tradition sur le même pied que la Bible. Quand tu discutes avec quelqu'un, ça ne peut pas marcher. Si tu dis catholique, là, laisse ta tradition de côté, laisse ta affaire, ces affaires-là. Là. Moi, je veux juste la Bible. Ça ne marchera plus, les affaires. Ils ne seront pas capables de défendre leur doctrine s'ils s'en tiennent uniquement aux Écritures. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils se sont construits toute une multitude de doctrines qui sont fausses, à cause justement de ça, qui mettent la tradition sur le même pied que la Bible. Un autre, les Mormons. Les Mormons disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il y a trois autres livres, le livre des Mormons et deux autres, Pierre de Grand Prix et un autre. Là. Ça, c'est la même chose que la parole de Dieu. Alors, ils ont pu... Ça, c'est pas juste la parole de Dieu. Alors, ils ont la Pierre de Grand Prix, ils ont trois, quatre livres. Alors, on voit pourquoi ils sont dans l'erreur. Les témoins de Jéhovah, ils ont la tour de garde. Ils sont pas capables de lire la Bible seuls. Même, ils pensent qu'ils n'ont pas le droit. Pour lire la Bible, il faut qu'il y ait la tour de garde ou un ancien ou quelqu'un qui soit capable de leur expliquer. Les pentecôtistes, eux, il y a un autre problème. Je ne parle pas de toi particulièrement ou de quelques pentecôtistes que ce soit. Je parle des pentecôtistes dans leur généralité, dans l'ensemble du grand mouvement. Ils ont quelque chose de dangereux qu'ils ont ajouté depuis quelques années, plus particulièrement, peut-être depuis une cinquantaine d'années plus particulièrement. C'est ce qu'on appelle les révélations extra-bibliques. Alors, ce qu'ils disent... Quand tu vas dans leur réunion, quand tu vas sur la TBN, que tu regardes leur programme, tu vas entendre souvent « The Spirit of God told me » ou « The Spirit of God spoke to me ». Là, Dieu, ils prétendent tout que Dieu leur a parlé. Et quand tu regardes ce qu'ils disent et que tu regardes ça à la lumière des Écritures, il y a des contradictions. Ça ne marche plus, là, des fois, là. Et ça, on pourra multiplier les exemples, je crois, des livres, je crois, dans mon sein, des exemples de personnes qui ont fait ça, que l'Esprit de Dieu, j'ai entendu certains pentecôtistes parler, de dire que Dieu leur avait parlé dans leur chambre, une grosse lumière était venue. Là, il avait même monté au ciel. Là, Dieu, le Seigneur lui avait dit, faut que tu descendes sur la terre, faut qu'il aille lui parler, faut que tu lui dises ça, là. Là, il n'est pas pour aller dire ça, il s'est assassiné avec le Seigneur, t'sais. Là, il revient sur la terre, il nous consulte, il est bien sérieux, lui, là. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il y a une relation, une révélation extra-biblique. Il dit que c'est Dieu qui lui a dit ça. Et là, il dit, on doit faire telle affaire. Mais c'est pas nouveau, ça. Dans l'Ancien Testament, il y en avait aussi des faux prophètes qui disaient, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel leur disait, la façon de savoir si un prophète est vrai ou si un prophète est faux, c'est de regarder si ce qu'il dit va se réaliser. Quand le faux prophète annonce quelque chose, ça ne se réalise pas, c'est-à-dire que c'est un faux. Puis le Seigneur, il n'est pas très doux non plus envers les faux prophètes. Ils ont tous été jugés assez sévèrement dans l'Ancien Testament. Donc, la fameuse habitude d'ajouter aux Écritures, c'est pas d'hier, ça existe encore aujourd'hui. Puis je pense que ça va exister jusqu'au retour du Seigneur. L'autre affaire, c'est d'enlever aux Écritures. Comment on peut enlever aux Écritures la mauvaise traduction? Et aujourd'hui, il y a une, surtout dans le milieu anglophone, plus peut-être plus particulièrement de façon aiguë, quoique dans le milieu francophone aussi, là, on a traduit la Bible d'une manière très, pour utiliser le mot en anglais, là, loose. C'est, parce que si tu dis que ça c'est la parole de Dieu, chaque mot est inspiré. Est-ce que tu as la liberté de traduire ça n'importe comment? D'ajouter des mots très légèrement. Légèrement et dangereusement aussi. Alors, légèrement et dangereusement. Alors, le danger dans tout ça, c'est que tu peux enlever des choses aux Écritures en changeant des mots. Par exemple, le mot « sang », par exemple, le mot des versets qui sont très forts pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Soit que tu les enlèves, soit que tu les traduises d'une manière tordue un peu, de façon à ce que ça dit plus ce que ça voulait dire dans l'original. Alors ça, c'est une autre façon. Donc, tu as ajouté, enlevé, à la de tordre les Écritures. Tordre les Écritures, Pierre, je pense qu'il est Pierre qui parle, il dit qu'il en tord le sens. Tu peux prendre un verset, tu peux lui faire dire des choses que ça ne veut pas dire, pense. Ça ne veut pas dire ça du tout. Des exemples de deux fois la bière. Dans la version Darby, à une place, Jésus a touché un cercueil. Dans nos versions, nous autres, c'est marqué « touché un cercueil ». Mais dans la version Darby, c'est Jésus touchant la bière. Mais le mot « bière » veut dire « un cercueil ». Le mot « bière » en français, ça peut aussi vouloir dire « cercueil ». Mais tu pourrais prendre ça et dire ben, « Jésus a déjà pris de la bière ». Quand c'est marqué « Jésus touchant la bière ». Alors, tordre les Écritures, là, c'est un exemple un peu fort, là, un peu, mais il y en a qui l'ont fait. Tordre les Écritures, c'est prendre les Écritures, les sortir hors de leur contexte et de leur faire dire des choses que la Bible n'enseigne pas du tout. C'est prendre la pensée humaine et chercher, pensée humaine fausse, et chercher à la justifier avec des versets tirés hors de leur contexte. Très, 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 très dangereux aussi. Là. Ou une interprétation erronée. Ou une incapacité d'harmoniser. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est la question de tort des Écritures. Il y a une autre attitude face aux Écritures. Donc, on a ajouté, enlevé, tort, et je dirais un autre, refusé. Alors, refuser les Écritures, c'est ne pas assujettir ta raison ou tes émotions à ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des choses dans la Bible qui sont, pour l'homme, offensantes, qui sont dérangeantes. L'homme n'aime pas entendre ça. On l'a vu la semaine passée dans les versets, qu'à la fin des temps, les hommes ne sont plus capables d'entendre la sainte doctrine. Ils vont se donner une foule de docteurs qui vont leur parler selon ce qu'ils veulent entendre. Parce que ça leur déplaît ce que l'Évangile enseigne. Alors, il y en a aussi qui vont désobéir ou qui vont simplement ignorer ce que les Écritures enseignent. Comment on peut connaître la vérité? Je dirais le premier critère. Comment on peut connaître la vérité? On va aller voir deux versets qui nous en parlent un petit peu. 1 Corinthiens 2, 14. Qu'est-ce que ça dit? Très important. Quand on parle de l'homme animal, ça veut tout simplement dire l'homme non régénéré, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'homme à qui Dieu n'a pas fait grâce. Ça dit, or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, pour être capable de juger les choses de nature spirituelle, il faut que tu sois né de nouveau, il faut que Dieu t'ait fait la grâce. Sans ça, ta compréhension des Écritures va être, ça te dit, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Un autre verset, 2 Corinthiens 4, 4. On va aller à partir du verset 3 pour que ça soit pour voir le contexte comme il faut. Et Paul qui parle aux Corinthiens, puis il leur dit que si notre évangile est voilé, Or, on voit par là que c'est possible que l'Évangile, pour quelqu'un, soit voilé. Quand quelque chose est voilé, tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Alors, que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? Satan. Dont Satan a aveuglé l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux Évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, une des premières conditions que ça prend pour être capable de comprendre la doctrine du salut de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Comprendre les choses spirituelles, la prédestination, l'élection, il faut que Dieu t'ait fait grâce, il faut que Dieu t'ait donné son esprit pour être capable de comprendre ces choses-là. La deuxième chose, je pense qu'il faut avoir aussi la bonne attitude. On a parlé un matin dans l'enseignement de matin, on parlait d'avoir une attitude comme celle des enfants. Alors, quand on reçoit la parole de Dieu, il faut absolument la recevoir de la même manière qu'un enfant reçoit un enseignement. Un enfant, de sa nature, c'est crédule, ça reçoit tout, ça croit tout. Alors, quand on reçoit les choses de Dieu, il faut avoir aussi la bonne attitude. Donc, être né de nouveau, avoir la bonne attitude, l'ouverture, on a parlé d'ouverture tout à l'heure, et accepter les exigences. Quand Dieu parle, il y a des choses qui nous font mal, il y a des choses qui nous dérangent. La preuve, c'est qu'on est en train d'étudier Matthieu. Et quand on regarde l'ensemble de la vie de Christ, durant ses 30 ans dans la nation d'Israël, surtout particulièrement dans ses 3 dernières années où il y a eu sa vie publique, on voit que dans le fond, les Israélites ont vraiment pas compris ce pourquoi ils venaient faire, puis ceux qui ont compris l'ont refusé, l'ont rejeté. Alors c'est vraiment, ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas accepté les exigences. Un matin, on parlait que le jeune homme riche est venu rencontrer Jésus, il était bien prêt à vouloir aller au ciel, avoir la vie éternelle, mais il fallait que ce soit selon ses conditions à lui. Il croyait qu'il était capable d'obéir aux 10 commandements de Dieu, et il croyait qu'il était capable de faire ça. Le Seigneur l'a mis au test, lui a dit, si vraiment c'est ça, ben vends tes affaires, puis donne-les aux pauvres, puis viens, puis suis-moi. Alors, quand tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu, et tu es charitable envers ton prochain. Alors, il l'a mis au défi, et il a abandonné tout de suite, s'est en allé tout triste. Alors, quand Dieu parle, il nous dit ses conditions de salut, il nous dit la manière dont un homme peut être sauvé. Il y a des exigences là-dedans, il y a des choses difficiles à accepter, et il faut que tu les acceptes. Si tu ne les acceptes pas, c'est ça, accepter, recevoir le salut de Dieu, c'est vraiment accepter les conditions de Dieu. C'est qui, en qui tu peux être sauvé? En la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes la nature de l'œuvre de Jésus-Christ, il faut que tu l'acceptes, les exigences. Si quelqu'un dit, après s'être fait dire c'est quoi l'Évangile, oh ben là, moi, les 10 commandements, je sais que je suis capable d'y obéir, puis je vais continuer à y obéir, puis quand je vais arriver devant Dieu, là, je vais avoir tellement de bonheur là, que le Seigneur m'acceptera bien. Alors les Juifs, ceux qui croyaient dans le temps, ils continuaient à persister dans leur façon de croire qu'ils pouvaient être sauvés par les œuvres de la loi. Mais quand tu étudies la Bible, le Seigneur, il dit le moyen du salut, que ce n'est pas ce moyen-là. Il l'a rejeté. Dieu leur a démontré qu'il rejetait cette façon-là. Et une autre affaire qui est de temps de notre responsabilité, les Écritures ne se contredisent pas, et qu'est-ce que ça prend pour être capable de comprendre des doctrines comme la prédestination, l'élection? Parce que là, on rentre dans des doctrines qu'on pourrait appeler le steak. On n'est plus au petit lait. Quand on est rendu là, on est rendu à des doctrines qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre. Et ce n'est pas des doctrines qui vont... Ça demande du temps et ça demande de l'étude. Si tu penses que tu vas comprendre ça et que tu ne feras pas d'efforts, tu te trompes. Alors, on va regarder un verset qui nous dit, dans 2 Pierre 1, verset 5, que Dieu dit que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, l'étude et l'examen des Écritures. Il leur dit dans le verset 5, « Ainsi, y apportèrent toute votre zèle. » Ici, encore une fois, je reviens sur le mot grec. Là. Le mot zèle, ça veut dire toutes tes énergies, toute la puissance de ton intellectuel, de ton intellect, toute la force. C'est vraiment, là, c'est d'y mettre, là, tu sais, quand tu dis quelqu'un s'intéresse à quelque chose, tu dis, disons quelqu'un s'intéresse à l'informatique, tu dis, pas des forces, tu viens en manque, l'informatique. Tu sais, il y a du monde comme ça, ils viennent comme tellement obsédés par l'étude de quelque chose qu'ils en deviennent presque. Le Seigneur, le zèle, tu sais, là, il nous dit que c'est cette attitude-là qu'il faut avoir pour étudier. Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la science. La science des Écritures, là, c'est pas une science infuse. C'est une science, la même chose que l'étude du génie électrique, puis la même chose l'étude alimentaire, génie alimentaire, pas trop quoi, c'est ça que tu dis, là. C'est quelque chose qu'il faut que tu mettes de l'effort. Au bout de 4 ans, tu vas sortir de là, tu vas savoir énormément de choses sur l'alimentation, que moi, je sais pas. Mais ça ne te fera pas tomber, on n'aura pas pris une aiguille, te le rentrer, te l'injecter dans la tête. Hein? Il faut que tu bûches, tu lis, tu fasses des rapports, tu fasses du travail. Mais dans les Écritures, c'est pas différent. Quand on veut connaître ce que Dieu dit sur le salut, il faut étudier, il faut prendre le temps d'aller voir ce que Dieu dit dans sa parole. Et dis-toi une chose, c'est qu'à partir du moment que tu vas avoir fait ton opinion, que tu vas avoir mesuré toutes tes idées à partir de la parole de Dieu, et que tu vas avoir solidement établi ta position, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas avoir des persécutions. Et c'est pas nouveau. Après-midi, j'ai tout lu le livre que tu m'as apporté sur Calvin. Alors j'ai lu ça, puis je me suis rendu compte d'une chose. À son époque, du monde qui l'ont combattu, qui ont combattu la vérité en essayant de nier que Jésus-Christ est Dieu, en niant la providence, en niant la prédestination, en niant l'élection. C'est pas d'hier. Le combat existe depuis le début. Il y a tout. Puis quand il est ferme, le malin, là, je regardais ça après-midi, là, à l'époque où Calvin était dans sa ville à Genève, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, il y a eu des calomnies, on a essayé de lui faire part de sa job, on l'a accusé de tous les maux de la terre. C'est incroyable ce qu'on a dit de lui. C'était un homme qui vivait une vie sainte, une vie très engagée pour le Seigneur, une vie de prédication, une vie d'étude de la parole de Dieu, une vie où il a consacré tout son temps, son énergie au bien-être des églises qui existaient dans toute l'Europe. Et il a énormément souffert. Pourquoi? Parce que quand tu as la vérité et que tu cherches à la proclamer et que tu cherches à l'enseigner, le démon, il va te prendre en grippe puis il te lâchera pas. Il va te faire du trouble de tout bord, de tout côté. Ça va venir des fois des places que tu t'en entendras pas. Pas en tout. Toi, tu penses que, donc, je fais juste dire la Bible, je fais juste dire l'enseignement de Dieu sur le salut. Mais ça, c'est certain. À partir du moment où tu vas avoir tes positions vont être fermes et que tu vas défendre la vérité de Dieu, et non seulement tu vas la défendre, mais tu vas la proclamer, tu vas la dire aux autres, tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est automatique. Seigneur, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, tu vas être persécuté, tu ne seras pas aimé, parce que Seigneur, il parle d'un petit reste. Il va y avoir toujours un petit reste de personnes qui vont défendre sa vérité. Il va y avoir un coût à ça, et c'est inévitable. La personne qui croit, qui va pouvoir avoir la vérité, puis la proclamer aux autres, puis ne pas avoir de trouble, il se trompe parce que c'est pas ça que la Bible enseigne. Alors, le premier point que je veux apporter, c'est que le calvinisme, c'est uniquement biblique. On ne se base pas sur les écrits de Calvin. C'est sûr qu'on peut s'en inspirer pour voir la pensée, pour aller voir les versets qu'il nous propose, mais c'est pas basé sur un enseignement d'homme. C'est uniquement sur la parole de Dieu. À son époque, quand il enseignait, je lis son livre sur l'institution de la religion chrétienne, tout le livre qui est écrit, il y a pas qu'il y avait, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait 27 ou 28 ans quand il écrit ça la première fois. Alors, c'était un jeune homme, là. Mais il était déjà très calé dans les Écritures, il connaissait le grec, l'hébreu et le latin. Et il avait une bonne culture Il avait lu, comme par exemple Augustin, j'ai vu ça après-midi, il avait tout lu Augustin. Et il y a eu des personnes qui ont voulu se servir d'Augustin pour dire que ce qu'il enseignait était faux. Alors, ils ont dit, dans ce temps-là, c'était à la mode des débats, ils ont dit, viens. Là, ils l'ont mis face à Calvin. Dieu s'est fait, il s'est fait démolir au bout. Parce que Calvin est arrivé, puis il ne savait même pas qu'il était pour y parler de ça, puis il citait les grands, grands, grands bouts de l'œuvre d'Augustin de mémoire. Apparemment, qu'il avait une mémoire phénoménale. Alors, il te l'a démoli, l'autre. Où t'as pris ça? Dans quel livre t'as pris ça? Puis, regarde, donc, pas vrai, dans tel livre, il a dit ça, puis il a dit ça, puis ça, de mémoire. Alors, on voit que Dieu a toujours suscité de tout temps des personnes qui sont capables de défendre la vérité. Alors, seules les Écritures, si t'as les bonnes attitudes, puis t'acceptes les exigences, alors, il faut que tu acceptes que les Écritures sont ton autorité. Alors, si tu sors de ça, puis le catholique dit, « Ouais, mais on va le voir l'œuvre là, de Saint-François d'Assise, puis on va le voir. » C'est ça qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont toujours vouloir ajouter, ils ne sont pas capables de se limiter uniquement aux Écritures, parce qu'ils savent très bien que s'ils se limitent uniquement aux Écritures, ils ne seront pas capables de maintenir leur position. Ça c'est un fait. L'autre affaire, c'est qu'il faut soumettre notre raison aux Écritures. Par exemple, les doctrines du décret de Dieu. On va voir ça plus tard, là, pas à soir, là, mais dans les prochaines leçons, on va voir la doctrine du décret de Dieu. On va voir la doctrine de l'absolue souveraineté de Dieu. On va voir la doctrine de la prédestination, la doctrine de l'élection. Ça, là, c'est quelque chose qui répugne l'homme. Il y en a qui ne sont même pas capables d'entendre le mot qui vient de ce nom. J'ai un livre ici qui est écrit par un ennemi du calviniste. Tu vois, là, il haït tellement le système de pensée, dans le fond, il haït le Seigneur. Parce qu'il se dit chrétien, mais il n'est pas capable d'accepter ce que Dieu dit. Ça le. Tu vois, là, en tout cas, je pourrais que je te fasse lire ça, là. Ça a 300-400 pages, c'est quasiment 400 pages de hargne, de haine, d'insultes à tous ceux qui croient au système du calvinisme. C'est vraiment profond. Tu sens là, qu'il n'est pas capable de le prendre. Alors, c'est sa raison. Il se fait diriger par sa raison et non pas par les Écritures. L'autre point, le calvinisme est parfaitement biblique. Ce que je veux dire par ça, c'est que si tu voudrais te débarrasser des doctrines que j'ai nommées tout à l'heure, décret de Dieu, absolue souveraineté, prédestination, élection, et d'autres, il faudrait que, parce que c'est dans tous les chapitres, dans tous les livres de la Bible, il y a des versets qui parlent de ça. Alors, c'est pas quelque chose que tu peux dire, oh, ça me plaît pas, je vais le lâcher. Je vais l'abandonner, à moins que tu aies des versions qui sont tellement pourries, comme c'est le cas pour celle des témoins de Jéhovah, où ils ont tellement modifié, changé les versets, que là, à ce moment-là, tu peux presque y faire dire ce que tu veux. Mais si tu gardes une Bible fidèle, une Bible qui a été traduite correctement, puis tu dis, moi, la doctrine du décret, la doctrine de la souveraineté de Dieu, la doctrine de l'élection, la doctrine de la prédestination de cette côté. Mais je vais dire, viens, c'est des peu. Moi, je vais te prendre des versets, puis je vais aller dans les livres, puis je vais t'en montrer. Je vais t'en montrer dans tout le livre. Tout le livre au complet. Deutéronome. Je vais t'en montrer partout. 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 Ésaïe, Psaume. Tout. Partout. Tu ne seras pas capable de t'enlever. Tu n'es pas capable de l'enlever. Elle est là. Un livre qui enseigne quelque chose, tu n'es pas capable de le retirer. Et c'est ça qu'on va voir quand on va étudier ces doctrines-là. Il y en a qui prétendent la doctrine que Dieu a tout décrété de toute éternité sur toute chose. Ah, c'est faux. Ah oui, c'est faux. Mais là, on va aller voir le verset. Si tu dis que c'est faux, c'est dans ta tête que tu dis que c'est faux. Mais est-ce que c'est ça que Dieu dit? Là, tu prends ta Bible, tu vas voir. Isaïe, là, tu te promènes, tu vas voir. Là, quand Dieu a parlé, où tu décides que c'est le gars qui te parle qui a raison? Parce que son raisonnement te plaît, ou bien non, tu dis, Dieu dit ça, ça me plaît pas, mais Dieu me le dit. Alors, il y a juste une chose à faire, c'est de me soumettre et de le croire. Une autre chose qui est importante à voir, c'est le test de l'harmonisation. Quand un système Là, on parle du calvinisme. On pourrait le comparer à l'arminianisme. Nous, on prétend que le système est faux, que c'est un évangile à la fois dilué et tronqué, ce qu'on pourra démontrer avec les autres leçons qui s'en viennent. Alors, on voit que quand on défend un système, faut absolument, on a tout un problème. Que ce soit les arminiens ou que ce soit les calvinistes, on a le problème de l'harmonisation. Parce que, qu'est-ce qui fait que les deux systèmes sont des fois, qui ont l'air en opposition? C'est parce qu'il y en a qui vont dire, « Ah, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. » Alors, ils prennent un verset hors contexte, et là, ils disent, « Regarde, car Dieu a tant aimé le monde, c'est marqué le monde. » Mais là, pour qu'il y a le voir, est-ce que ça se peut que dans les Écritures, le mot monde puisse avoir plus d'un sens? Tu vas voir d'autres exemples ailleurs où le mot monde ne veut pas dire nécessairement tout le monde. Et le mot tous ne veut pas nécessairement dire tout le monde. Quand on prend un exemple qu'on cite dans nos conversations de tous les jours, on va faire disons, il y a eu une petite fête, on va dire tout le monde est là. Si je te dis Charles Bégin n'était pas, tu vas dire oui, il n'était pas, c'était pas tout le monde. Les autres, c'est un peu le raisonnement qu'ils disent, à quoi c'est marqué tout le monde, ils prétendent que ça veut dire nécessairement toujours tout le monde. On utilise ça dans nos écrits, on utilise ça dans notre façon de parler. Les Écritures aussi utilisent un langage que des fois les mots ont des sens différents dépendamment du contexte dans lequel il est utilisé. Et ça, c'est facilement démontrable. Et quand tu prends un verset comme ça, tu le sors de son contexte, tu dis, regarde, il a dit le monde, donc ça veut dire qu'il est venu pour tout le monde, qu'il a sauvé les péchés de tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais des péchés, qu'est-ce que tu fais des passages qui disent qu'il est venu pour son Église, il est venu pour son peuple. Et il y a toutes sortes d'expressions qui disent comme ça, c'est son Église, son peuple, il n'a pas donné son salut pour tout le monde. Alors, il faut que tu harmonises. Ceux qui disent que Dieu et Jésus est venu sur la terre, puis par son sacrifice sur la croix, il a rendu son salut possible à tout le monde, à ce moment-là, faut examiner la nature de ce qui s'est passé sur la croix. Ça correspond avec les Écritures. Faut examiner. Tu sais, tu peux pas dire ça sans examiner l'ensemble des passages comme dans Jean 17, le prière sacerdotale, c'est-à-dire je ne prie pas pour ceux du monde, je prie pour les miens. Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça. Autant, si tu choisis le système calviniste, après avoir étudié l'ensemble de ce que les Écritures disent sur le salut, autant si tu choisis le système que Jésus, quand il est venu, il a offert le salut à tout le monde et qu'il l'a rendu disponible à tout le monde, tu vas avoir des versets qu'il va falloir que tu harmonises. Parce que il y a des versets qui ont l'air à se contredire. C'est ça qui est le problème difficile des Écritures, et que quand tu commences à expliquer, de prendre le système calviniste, tu es facilement capable d'harmoniser les versets qui ont l'air à être universels, on pourrait dire, tandis que eux ne sont pas capables d'harmoniser les versets. Eux, ils se servent de versets universels pour dire que le salut est pour tous. Ils ne sont pas capables d'harmoniser les versets qu'on va leur apporter en disant les siens, son Église. Et on va y emmener une multitude de versets qui ne sont pas capables d'harmoniser. Ou s'ils les harmonisent, ils vont tordre les Écritures, ils vont jouer avec, mais ça ne marche pas. Mais le système calviniste a ça comme caractéristique, c'est que quand tu l'as étudié d'aplomb, puis tu as regardé d'aplomb les versets qui t'amènent comme contre-argumentation, tu vois que ça ne tient pas debout. Le troisième point que je vais appeler, c'est le calvinisme est définitivement biblique. Il réussit tous les tests, le test du temps. Mais les Arméniens peuvent dire la même chose, parce que l'arménianisme existe depuis le début. Mais c'est pas là, c'est impossible que deux systèmes qui se contredisent tant que ça, qu'il n'y ait pas un qui soit répétable. Alors, il y en a un qui a raison, puis il y en a un qui est répétable. Ça peut pas être les deux en même temps, c'est impossible. Parce que quand on va l'étudier en détail, on va voir que ça, c'est impossible que ça soit les deux en même temps. Où il a sauvé, où il a rendu le salut de tous les hommes possibles, ou il a rendu certain le salut de ses élus. Ça, c'est vraiment les deux positions bibliques fondamentales sur le salut. Et là, on va voir qu'il y a une multitude de versets qui disent que Dieu a choisi ceux à qui il voulait donner le salut en les plaçant en Jésus-Christ dans l'éternité. Quand Christ est venu, il est venu pour sauver uniquement eux. Il a payé leur punition à leur place. Il a accompli la loi, l'obéissance au commandement de Dieu qu'il devait accomplir à leur place. S'il l'aurait fait pour tout le monde, automatiquement, tout le monde sera sauvé. Alors, ce sur quoi on s'obstine, c'est ce qui s'est passé sur la croix, la nature de la rédemption de Christ. Et encore là, quand on va rentrer là-dedans, on va aller voir des mots, on va aller voir des mots grecs, on va aller voir ce qu'ils veulent dire, puis qu'est-ce qui implique quand on dit « ouais, ça dit ça, mais qu'est-ce que ça implique? » Et on va voir par raisonnement qu'à un moment donné, Dieu nous a donné une raison, mais la raison, pour qu'elle serve à harmoniser, pour qu'elle serve à comprendre, à mettre des joints avec les choses, mais pas pour dire si je comprends pas, je l'accepte pas. Il y a une grosse différence. Le thème de la cohérence aussi. La cohérence, ça c'est une chose que je me suis rendu compte dans les milieux chrétiens en général. Quand tu rencontres un problème dans les écritures d'interprétation ou quoi que ce soit, il faut que tu sois cohérent dans ta pensée. La cohérence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je décide une certaine position, il faut que ça matche, qu'on pourrait dire, il faut que ça s'explique, que ça s'articule avec l'ensemble de la pensée. Mais alors, j'ai vu ça très, très, très souvent, des personnes qui prennent des positions, mais ils ne se rendent pas au bout de leur raisonnement. Tu leur dis, écoute, si tu crois ça, ça implique ça, ça. Ça implique ça, ça. Donc, tu sais, il y a comme un raisonnement. Et il y en a qui ne se rendent pas au bout. Ils prennent toutes sortes de positions, puis leur... et je pourrais multiplier toutes sortes d'exemples. Là. On ne fera pas en soi, parce que ce n'est pas le but de ça. Mais quand tu étudies un sujet comme le salut, c'est un sujet fondamental. Ce n'est pas un sujet, là, je ne sais pas, bon, je voudrais avoir la pensée de Dieu sur... si on doit avoir les cheveux longs ou on doit avoir les cheveux courts. Il y a un enseignement de la Bible là-dessus. Mais ce n'est pas un enseignement qui implique ma vie éternelle. Mais quand on parle du salut, ça veut dire que si je me trompe là-dessus, ça implique qu'un jour, je ne vivrai pas au bon endroit pour l'éternité. L'endroit, là, c'est pas une question de « c'est pas grave ». Oh, je suis pas à bonne place, mais je suis pas grave. Et quand tu vas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'autre place, ça te tendra peut-être pas d'y être. Là. Alors, c'est pas quelque chose qui est pas grave. C'est extrêmement grave. Alors, c'est même, si on regarde à partir de la Genèse, aller jusqu'à la fin de l'Apocalypse, c'est quoi l'idée fondamentale? Le Seigneur, Dieu avait promis à son peuple dans l'Ancien Testament, de leur envoyer un roi, un messie, un sauveur, un rédempteur. Parce qu'après la chute, on pourrait aller voir tous les versets, là, Dieu avait promis qu'il enverrait cette personne. Il l'a envoyé, il est venu, mais les Juifs, il s'est présenté à eux, puis il leur a démontré qu'il était l'homme-dieu, qu'il était le messie, qu'il était le roi promis. Ils n'ont pas voulu l'accepter, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en le crucifiant, il venait d'accomplir ce que Dieu avait dit sur la manière dont le salut devait s'accomplir. Eux, ils pensaient que c'était un messie militaire, une personne qui dégagerait Israël des dominateurs romains. D'ailleurs, quand il est venu, c'était pour aller sur la croix. Ça avait été prédéterminé dans l'éternité que c'était la manière dont il devait sauver les hommes. La manière dont il devait sauver les hommes, il y en a plusieurs qui pensent que ce qui s'est passé sur la croix, là, c'est qu'ils ont pris Jésus, ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont crucifié, puis c'est à cause qu'il a beaucoup souffert là, sur la croix physiquement que c'est ça qui nous donne le salut. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui donne le salut. qui donne le salut, c'est qu'on pourrait aller voir une multitude de versets qui démontrent ça dans Ésaïe et dans d'autres passages, dans 2 Corinthiens 5, 21 en particulier, et d'autres passages. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu demandait, pour que tu puisses aller au ciel, pour que tu puisses vivre en sa présence, il demandait deux choses. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait payé pour tes péchés. Il y a deux possibilités. Ou qu'il te les fait payer toi-même, ou il fait payer ce que tu méritais à un autre. La substitution. Ce qu'on appelle en théologie la doctrine de la substitution. C'est Jésus-Christ qui s'est substitué à ses élus pour subir à leur place qu'est-ce qu'eux devaient subir. Et il l'a subi sur la croix. Quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce qui se passait, c'est que Jésus subissait l'équivalent de l'enfer que ses élus devaient porter. Et quand on est un élu de Dieu, ça veut dire que moi, j'ai commis une somme X de péchés, et quand je devais comparaître devant Dieu, Dieu devait me jeter en enfer pour ces péchés-là, pour l'offense que je lui avais faite, qui est une offense contre une personne infinie qui me méritait une punition infinie. Alors, si j'étais en Christ, quand le Seigneur, le Dieu le Père, a jugé dans son Fils mes péchés, pas les siens, parce que lui n'avait jamais commis, il lui a fait subir l'équivalent de la douleur que j'aurais dû subir, moi, si j'avais été en enfer. Et non seulement la mienne, mais celle de tous les élus de tous les temps. Alors, essayez d'imaginer la quantité de souffrance que le Seigneur a portée pour ses élus, c'est inimaginable. Parce que l'enfer, en soi, c'est un lieu où il va y avoir du feu, où les gens vont avoir un corps indestructible, où ils vont hurler pour l'éternité. Puis de penser qu'après avoir vu Dieu, parce que d'après ce qu'on enseigne sur l'enfer dans les livres de théologie, on dit que la plus grande douleur qu'il va avoir dans l'enfer, celle de souffrir physiquement dans l'enfer, souffrir de la douleur du feu, ça va être une très grande douleur. Mais la pire, ça va être parce que tu vas avoir vu Dieu et tu vas être privé de sa présence pour l'éternité. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Et tous les auteurs théologiques s'entendent à dire que c'est la plus grande douleur dans l'enfer. D'être privé de la présence de Dieu après l'avoir vu. Tu vas l'avoir vu quand tu vas être jugé, ceux qui n'auront pas été sauvés, et tu vas être privé de sa présence et à un moment donné, tu vas avoir cette image-là dans la tête pour l'éternité. Tu vas remémorer ça dans ta tête, tu vas dire « je ne pourrais pas y aller », puis en plus, tu vas avoir la souffrance physique, tu vas avoir les hurlements qu'ils vont entendre autour de toi. L'enfer, là, on pourrait enseigner longtemps là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et en tout cas, ça viendra peut-être éventuellement qu'on fera une série là-dessus. C'est une doctrine qui aujourd'hui est plus très populaire. Quand on enseigne l'Évangile, premièrement, on dit très peu à l'homme son état, qui est pécheur à un point, qui n'est pas capable de se sauver par lui-même, que ça prend absolument la grâce de Dieu pour le régénérer, parce qu'il est mort spirituellement. Alors, c'est pas quelque chose de facile, le salut. C'est facile dans le sens de l'accepter, mais je veux dire de facile à comprendre dans toute sa globalité. Ce n'est plus enseigné de cette façon-là. C'est tellement, là, on dit que tu es pécheur, puis on dit, ah, le salut est accessible à tous, il suffit que tu dises ta petite prière de la repentance, Seigneur, t'as pensé, là, je vais aller au ciel, et après, tu vis comme tu veux, puis tu continues, tu vas dans l'église, puis tu penses t'es sauvé. Est-ce que tu as vraiment d'abord reconnu ton état de pécheur qui n'avait aucune capacité de se sauver lui-même? Est-ce que tu as vraiment reconnu que tes péchés te valaient une punition aussi sévère que ça, et que tu l'as accepté, que tu méritais ça? Est-ce que tu as reconnu que ce n'est aucunement par aucun de tes bienfaits ou de tes bonnes actions que tu as faites durant ta vie que tu vas obtenir le salut par les œuvres? Est-ce que tu as accepté que Jésus était Dieu qui a mis sur la terre, qui s'est incarné? Est-ce que tu as accepté qu'il a subi l'équivalent de la punition que tu devais subir à ta place? Est-ce que tu as accepté le fait que le Seigneur exigeait de toi pour que tu vives en sa présence la parfaite obéissance à la loi, les 10 commandements de Dieu, d'une manière parfaite, autant dans tes actions, dans tes pensées. Quand tu commences à voir ça, là, puis tu es suspendu à un fil au-dessus d'éternité, tu peux sortir d'ici, tu peux crever, là, puis tu es suspendu à un fil, puis si tu tombes dans l'état de non-sauvé, c'est là que tu t'en vas, là, tu restes là pour l'éternité. Là. Si vraiment tu as saisi, bien, d'ailleurs, dans les grandes campagnes d'évangélisation américaines, et même anglaises, il y en a qui se faisaient prêcher par des prédicateurs puissants, calvinistes entre autres, là, ils se mettaient à juger de main. Il y avait peur, il y avait la peur de lui. Puis tu dis, est-ce que c'était juste du fin? Non. L'Esprit de Dieu les convainquait de leur péché, c'est ce que ça dit dans la Bible. Quand tu es convaincu de ton péché, puis tu vois où tu t'en vas, là, puis que tu n'as pas la capacité de te sauver toi-même, puis tu peux t'en aller là, c'est normal qu'on ait peur. Si on n'a pas peur, c'est parce qu'on est aveugle, ou on est complètement inconscient, ou on est fou. On ne peut pas dire à quelqu'un, moi tu ferais juste me dire, je vais tenir la main sur le poil une minute, puis j'aurai peur, j'aurai vraiment peur. Puis je vais te la tenir là, que ça te plaise, ça te plaise pas, tu vas attendre pendant une minute. Là, on ne parle pas d'une minute, on ne parle pas d'une main. On parle d'une éternité, puis tout le corps. L'éternité, là, c'est 1000 ans, c'est pas long, l'éternité. 2000 ans, c'est pas long. 10 000 ans, c'est pas long. 100 000 ans, c'est pas long. 1 million d'années, c'est pas long. 10 millions d'années, c'est pas long. C'est l'éternité. Ça sortira jamais. Mais ils vont dire, ben voyons donc, moi, si ça se peut que Dieu soit si méchant que ça, qu'il nous punisse juste pour des péchés, des menteries, en cause qu'on a couché avec la femme du voisin. Tu sais, c'est ça, aujourd'hui, on fait rire de nous autres quand on annonce ces choses-là. Pourtant, c'est ce que Dieu dit. À sa parole, si tu examines ce que Dieu dit, il exige la parfaite obéissance au commandement de Dieu. Et il te dit que si tu meurs dans ton état de péché, tu vas aller en enfer, tu pourras te sortir des versets comme ça, des centaines de versets où c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Puis il dit que c'est là que ça va commencer. Alors, là, il y a deux choses l'une. Ou ça me plaît pas l'idée, puis je fais les gorges chaudes, puis je dis, il est encore au Moyen-Âge, lui, puis il comprend rien, c'est un arriéré, il s'accroche avec sa béquille, et tous les fameux arguments. Bon, ok, si tu veux croire ça, moi, je ne peux pas t'en empêcher, c'est toi qui crois ça. Mais quand tu vas comparaître devant Dieu, tu vas dire, il m'a annoncé l'évangile, j'en ai ri, j'ai fait la gorge chaude, mais quand Dieu va dire, maudit au feu éternel, tu vas voir que tu ne riras plus, là. C'est moi qui vais rire. Parce que moi, je vais avec le Seigneur. Puis je vais voir ça se passer devant moi. Et je vais. Peut-être que je ne rirai pas, là. Mais dans le fond, c'est de dire, je vais peut-être juste avoir dire, mon loup, il aurait dû écouter, hein, il aurait dû s'ouvrir les yeux, il aurait dû s'ouvrir les oreilles. Le test de la vérité, le test du fruit, le test du fruit. Si tu prendrais l'ensemble, il y en a qui l'ont fait, ils ont étudié l'ensemble de la vie chrétienne de ceux qui professaient croire l'Évangile dans la perspective calviniste. Ça a été fait, j'ai lu dans certains livres qui ont fait ça, certains grands calvinistes, la vie de leur vie, certains aussi, je t'ai prêté un livre là, sur The Great American Awakening, Hazael Littleton, bon, déjà aussi, en gros, là, si tu penses, Hazael Littleton, c'est un gars qui prêchait les doctrines de la grâce aux États-Unis. On dit qu'il aurait, par son ministère, Dieu aurait sauvé à peu près l'équivalent de 25 000 hommes. Alors, c'était pas un petit deux pics d'évangélisateur, c'était un homme puissant utilisé par le Seigneur. De ces 25 000-là, il y en a qui ont fait l'étude pour regarder l'ensemble de la vie des personnes qui ont été sauvées par l'intermédiaire de son ministère, de son enseignement biblique. La grosse majorité ont demeuré fidèles au Seigneur toute leur vie. Il y a un autre homme qui prêchait qui s'appelait Finney, Charles Finney. Et lui, il prêchait un salut arminien. Il a sauvé, selon les dires, beaucoup plus que 25 000 personnes. Foule entière, c'était le. En tout cas, au 19e siècle aux États-Unis, là, il a fait un ravage, il s'est promis dans tous les États-Unis au complet. Puis du monde qui sont supposément venus au salut, là, ça se compte à pas ses doigts de la main, là. C'était des. Je dirais peut-être des centaines de milliers. Mais, le problème, il ne dure pas. Pourquoi il ne dure pas? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Et aujourd'hui, les campagnes d'évangélisation à la Billy Graham, Apparemment, il y en a qui ont fait la même étude là, avec les supposément sauvés de Billy Graham. Là, et sur les centaines de milliers de personnes qui ont supposément sauvé, il y en a 1% qui marche dans les voies de Dieu. Est-ce qu'ils ont entendu l'Évangile, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont vécu l'Évangile, ces gens-là? Ils retournent dans le monde après un an, deux ans, trois ans. Et c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas sauvés. Pourquoi ils n'étaient pas sauvés? Parce qu'on ne leur annonce plus l'Évangile pur. On les annonce plus l'Évangile dans toute sa dynamique, dans toute sa force, dans toute sa pureté. À partir du moment où tu commences à dire à l'homme qui est pécheur, qui est perdu, qui ne peut pas s'en sauver par lui-même, il faut tout qu'il mette sa foi en Christ, puis que Dieu est souverain, c'est lui qui a déterminé quel qui sera sauvé ou non. Tu commences à shaker, tu peux en dedans de toi. Tu dis un coup qu'il ne l'aura pas choisi. Puis si tu n'as pas cette réaction-là, là, passe parce que tu es aveugle ou tu es inconscient. Parce que si vraiment tu as compris où tu t'en vas, là, ce sera normal qu'une personne dise « Wow! Oh! C'est quelque chose, là. Ça lui vivre en enfer pour l'éternité. Dieu, moi, tu choisis. » Ça pose des graves questions, là. Ça te remet en question, ça t'ébranle, ça te dérange. Mais un évangile comme on prêche aujourd'hui, ça ne dérange plus. Le monde n'a plus peur, le monde accepte l'évangile, mais en autant que ça fait les affaires, ça ne les dérange plus, ça les fait peur. Le véritable évangile irrite l'homme. Le véritable évangile dérange l'homme. Le véritable évangile horripile l'homme. Les mots ne viennent pas assez puissants. Là, je me trouve d'autres mots, là. Le vrai évangile, l'homme, il a ça en horreur. Même la Bible dit que Dieu, l'homme, son ennemi, c'est Dieu. Il ne l'avouera jamais ouvertement, là. Mais dans le fond de son cœur, il haït Dieu. Il veut vivre à sa manière, dans son entêtement. Il veut ça. Et quand tu commences à lui annoncer ça, que si ça ne marche pas son affaire, que s'il continue dans cette voie-là, c'est là qu'il va aller en enfer, là, tu viens l'irriter, tu viens le déranger. Ça peut produire deux choses, deux réactions. Ou l'Esprit de Dieu vient ouvrir la personne en lui donnant la vie pour qu'il comprenne toute la grandeur de l'offre qui lui est faite, qu'il comprenne l'offre qui lui est faite et qu'il l'accepte et qu'il veuille vivre, recevoir la grâce de Dieu et qu'il commence à vouloir vivre selon ce que Dieu lui enseigne. Ou ça l'endurcit. Ça, ça fait. La Bible, là, quand tu la prononces dans sa vérité, dans sa pureté, là, devant une foule de personnes, où Dieu rouvre des personnes, des petites lumières qui s'allument dans les ténèbres, là, c'était là, c'est les personnes à qui Dieu donne la grâce. Les autres, après avoir entendu ça, bien souvent, ils vont devenir pires qu'ils étaient avant. Puis après, parce qu'à partir du moment où tu as rejeté l'Évangile, tu vas devenir pire qu'avant. Puis d'ailleurs, il y a des passages, quand le Seigneur il parle des esprits qui ont été chassés, là, puis à un moment donné, ils reviennent avec sept esprits plus méchants qu'eux. La maison a été balayée et ornée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne a entendu l'Évangile, puis a fait un petit peu le ménage dans sa vie, puis extérieurement, il a l'air sauvé. Et dans le fond, il n'y a rien qui l'habite. Ça a été balayé. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne t'habiter. Sans ça, les démons vont revenir. Ils vont revenir. Alors, c'est ça qui est l'Évangile, c'est que quand Dieu te fait la grâce, il trouve les yeux sur ce qui se passe, à un moment donné, alors, il y a le calvinisme et l'éducation. Quand le Seigneur dit, vous leur connaîtrez leurs fruits. Calvinisme et l'éducation. Le calvinisme et la politique. Si on regardait, il y a des études aussi qui ont été faites là-dessus, qui ont regardé comment ça se fait qu'il y a des grandes démocraties aujourd'hui, comparativement à d'autres pays qui sont dans les dictatures. L'influence du calvinisme dans beaucoup de pays est énorme. Énorme pour avoir créé des démocraties. Alors, c'était des défenseurs de la liberté. On pourrait écrire énormément là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit sur ces sujets-là. S'il y en a qui veulent approfondir, il existe de la littérature, je peux te donner des titres. Sur la sainteté, quand tu es sauvé, tu ne peux pas, après ton salut, vivre n'importe comment. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie de péché et prétendre que tu es chrétien. Aujourd'hui, dans une grande partie de la chrétienté, on dit qu'on veut recevoir Christ comme notre sauveur. on ne veut pas de lui comme notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, ça veut dire dominateur. Ça veut dire qu'il a tous les droits sur toi et tu te dois de lui obéir, tu te dois de vivre selon son enseignement. Quand un chrétien prétend chrétien, « Ah, oh, je suis sauvé. » Sauvé, mais il ne change rien. Il lit son horoscope. Il s'achète des lits du nouvel âge. Il fume, il bouille, il sort, il va voir il court les femmes, etc. Puis, mais d'un autre côté, si tu parles de religion, « Ah, je suis sauvé. » J'ai eu une campagne d'évangélisation de Billy Graham, puis quand ils nous ont demandé de descendre en bas, là, pour montrer qu'on avait la foi, je suis descendu, donc je suis sauvé. Quand tu es véritablement sauvé, tu vas porter les fruits. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le calvinisme et la sainteté, une personne qui est un véritable croyant va vivre une vie, du moins dans son... le fil conducteur de sa vie va être plus dans la sainteté que dans le péché. Le calvinisme et l'évangélisation, c'est un autre point. On a souvent accusé le système des doctrines de la grâce à cause que tu dis que c'est Dieu qui est souverain, que c'est Dieu qui choisit les personnes à qui il va donner la vie éternelle. On a accusé les calvinistes de ne pas évangéliser. Pourtant, j'ai un livre qui s'appelle le Baptiste, l'histoire des baptistes. Et là-dedans, dans ce livre-là, on a les deux lignées des baptistes. Les lignées qu'on appelait Particular Baptist, puis les lignées qu'on appelait General Baptist. General Baptist, c'était les Arméniens du temps. Les Particular Baptist, c'était les Calvinistes du temps. Et quand on regarde l'histoire, les plus grands promoteurs de l'Évangile, les personnes qui sont allées annoncer l'Évangile à travers le monde, là, sont les Calvinistes. Alors, d'où ça vient, cette fameuse idée de vouloir continuer à attaquer. Mais ça, c'est le propre du malin. Quand il voit que des personnes annoncent la vérité, il va lui chercher des points pour leur montrer qu'ils ne font pas les choses selon ce qu'ils devraient les faire. Mais c'est démontrer, il y a des livres et des livres et des livres pour vous en démontrer, là, que les calvinistes ont toujours été des grands évangélisateurs. Et quand on nous emmène ça comme argumentation, c'est très beau. C'est plus que très pauvre, non seulement c'est pauvre, mais c'est fou. Alors, et aussi le test du temps, c'est que depuis le début, depuis Paul, depuis que l'Évangile a été donné à l'homme, que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur dit qu'il va toujours avoir un petit reste qui va défendre l'Évangile, qui va défendre la vérité jusqu'à la fin. Mais quand tu poses la question, trouverai-je la foi? Ça veut dire que, avec le temps, l'apostasie va devenir tellement grande et tellement puissante et tellement absorbante de tous ceux qui ne sont pas dans la vérité qu'il va rester juste des petits groupes qui vont être capables de garder le flambeau de la vérité jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Et ceux qui vont être trouvés fidèles au retour du Seigneur, c'est là que le Seigneur dit « Rentre, bon et fidèle serviteur ». Alors, le Seigneur, il va reconnaître ceux qui ont combattu jusqu'à la fin. Alors, on peut dire comme conclusion, le Seigneur nous a dit, examinez les Écritures, il nous a dit ça, examinez les Écritures. Alors, ce qu'on va faire à partir des semaines suivantes, on va analyser, on va étudier la doctrine du décret de Dieu, on va étudier la doctrine de la souveraineté de Dieu, on va étudier la doctrine de la prédestination, la doctrine d'élection, on va aller à travers les 5 points du calvinisme avec tous les versets. Après ça, on va regarder les arguments contre, les arguments humains, les arguments bibliques. Après ça, on va replacer l'ensemble du calvinisme à travers l'ensemble du grand mouvement chrétien moderne, puis voir de quelle manière les gens s'en éloignent aujourd'hui par l'écuménisme, par le Nouvel Âge, par retour vers Rome, là, qui est en train de vouloir monter sa grande religion mondiale, que non seulement tous les chrétiens, les pseudo-chrétiens vont être ensemble, mais ils vont en même temps se joindre avec les islamistes, les bouddhistes, les tout ce que tu voudras du monde, puis là, ils vont dire, il y a juste un Dieu, il y a juste une grande religion. Et les deux choses sont en train de se préparer parallèlement. La grande religion mondiale qui est en train de faire ce travail-là pour le côté religieux, Rome à la tête, en train de tout ramasser, tout ce monde-là, non seulement des chrétiens, mais des religions du monde entier, pour en faire une religion. Mais la même chose est en train de se passer du côté politique, avec la bête, la bête qui est décrite dans l'Apocalypse, qui va devenir le système, le gouvernement mondial, qui va dominer toute la terre. Et à un moment donné, quand le Seigneur va enlever son Église, il va laisser mener la terre pendant 7 ans, la grande tribulation. C'est un autre sujet, on n'en parlera plus tard. Le Seigneur a dit aussi, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. On l'a vu la semaine passée, on l'a regardé le verset. Et je crois que c'est un verset d'une importance primordiale. Quand on est chrétien, qu'on professe l'être, on se doit d'examiner si ce qu'on croit correspond à ce que Dieu dit sur la manière dont on peut obtenir le salut. On se doit de le faire. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. On ne pourra pas arriver devant Dieu. Dieu, ouais, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas. C'est quoi ça s'appelle, ça? La parole de Dieu. L'as-tu lu? L'as-tu étudié? L'as-tu médité? As-tu essayé de comprendre ce qui se passe? As-tu essayé de... La personne qui va se prétendre devant Dieu, elle ne savait pas. Alors qu'elle avait la Bible dans les mains, qu'elle avait des docteurs, des personnes qui étaient capables de lui expliquer les choses autour de lui, puis qu'il ne l'a pas fait, c'est sa propre responsabilité. Alors, c'est sa responsabilité, c'est notre responsabilité d'étudier les Écritures. Alors aussi, il faut avoir les bonnes attitudes, il faut avoir du courage, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut avoir une attitude d'enfant, comme on l'a vu ce matin. Mais on doit savoir aussi que cette doctrine-là a des sévères exigences. C'est qu'après que tu as découvert la vérité, d'abord c'est un travail acharné d'étudier des Écritures, il faut que tu le fasses. Ensuite, je pense qu'il faut que tu ajoutes à ça la prière. Il faut que tu demandes à Dieu, même que tu le supplies, qu'il te montre la vérité, qu'il t'enseigne la vérité, qu'il te conduise dans la vérité. De toute façon, le Saint-Esprit l'a promis, qu'il nous conduirait, les enfants de Dieu, dans la vérité. Quand le Saint-Esprit sauve quelqu'un, il le conduit dans la vérité. Tôt ou tard, il fait que tu rencontres des personnes, il fait que tu rencontres des livres, il fait des choses en sorte que tu deviens en contact avec la vérité et il te conduit dans la vérité. Alors, ça demande du travail acharné, ça demande de la prière et aussi ça demande une responsabilité et ça demande aussi un certain courage d'accepter qu'après que tu vas l'avoir découvert, que tu vas l'avoir défendu et proclamé, il ne faut pas que tu t'attendes que ça va être rose dans ta vie. Parce que la vie spirituelle, on en a parlé la semaine passée, c'est un combat. C'est un combat contre les forces du mal. Il ne faut pas que tu t'attendes que si tu vas jouer des étals du malin, qu'il ne se trouvera pas un moyen pour venir te harceler, te faire du trouble de tout bord, de tout côté, puis de toutes sortes de troubles. En fait, de toutes sortes de troubles. Puis plus tu vas être zélé pour annoncer l'Évangile, plus il va s'acharner après toi. Parce qu'il s'acharne après les plus gros. S'acharne après les plus zélés, encore plus que les petits. Parce que les petits, ils dérangent, mais ils dérangent moins. Mais quand un gars va se mettre à aller prêcher dans les rues, il va se mettre à faire du porte-à-porte à tous les jours, ben, il va se mettre à distribuer de la littérature chrétienne vraiment solide à tous les jours, à un moment donné, que ce soit pas, il va... Parce que c'est son monde, hein? Il contrôle les gens, il est capable de faire un peu tout ce qu'il veut avec eux autres, alors il va t'emmener du monde autour de toi, il va te faire des problèmes. Ça, c'est certain. Mais la plupart des hommes de Dieu en ont eu des problèmes. Lui, après-midi, la vie de Calvin, il en a eu énormément des problèmes. Mais il a toujours été fidèle à Dieu, et Dieu a toujours sorti de ses problèmes, et il a toujours jugé très sévèrement tous ceux qui se sont mis dans son chemin, qui étaient des ennemis de la vérité. Parce que quand on regarde la vie de ceux qui se sont mis dans son chemin, là, et que le livre nous démontre qu'est-ce qui leur est arrivé, Dieu juge toujours sévèrement les ennemis de Dieu. Les ennemis de la vérité. Alors, on a terminé. Vérité oblige. Alors, Seigneur, nous te demandons de permettre qu'on ait cette bonne attitude des Béréens, Seigneur, qui examinent les Écritures pour voir si les doctrines qu'on enseigne sont selon la vérité. Nous te demandons d'avoir l'attitude, Seigneur, d'un enfant, de recevoir, de ne pas laisser la raison nous dominer, mais de bien accepter ta parole, de lui être soumis. Te demandons non seulement que nous découvrions toute la vérité, mais qu'après que nous l'ayons découvert, nous l'enseignons aux autres et que nous transmettions le flambeau, que nous proclamons la vérité en annonçant ton évangile, même si on sait, Seigneur, que cela va nous apporter des problèmes et que cela va nous apporter des persécutions du malin. Mais on sait que par ta grâce, Seigneur, on va persévérer jusqu'à la fin et qu'un jour, les petites souffrances que nous avons pu subir à cause de ton nom vont nous être grandement récompensées et la récompense n'aura aucune commune mesure de comparaison. Encore une fois, Seigneur, nous te demandons de bénir cet enseignement, de bénir le reste de cette semaine et nous te demandons de permettre qu'on demeure fidèle jusqu'à ton retour. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Question. Est-ce qu'un Arménien peut être sauvé?
Non, non, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. On pourrait aller très loin dans ça. En tout cas, moi, ce que je pense là, actuellement, j'ai vu sur Internet des sites calvinistes où des personnes qui disent si tu n'as pas compris la vérité de Dieu telle qu'enseignée, selon le système calviniste, c'est pas sauvé. J'ai vu des jeux, je pourrais te montrer des sites qui disent ça. Maintenant, moi, je me souviens d'une chose. Quand je suis allé à ma première conférence de doctrine de la grâce à Lima, en Ohio, qu'est-ce qu'on nous a dit? Les vieux pasteurs qui sont rendus à 60, 65 ans, sont rendus à la fin de leur carrière. Il y en a qui connaissent leur Bible, là, 100 fois mieux que moi. Ils connaissent le bout de leurs doigts. Ils viennent te dire que quand j'ai reçu la grâce de Dieu, souvent sont venus au Seigneur par un enseignement arménien. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le Seigneur nous conduit dans la vérité. Alors les personnes, avec le temps, ont étudié les Écritures et à un moment donné, se sont débarrassées de ce qui n'est pas vrai. Si le Seigneur t'a donné la grâce, t'a donné la vie éternelle, il t'a régénéré, t'a donné la vie spirituelle, c'est à cause de cette vie-là et à cause de l'influence et de la conduite du Saint-Esprit dans ta vie que tu as pu arriver à découvrir la vérité. Mais après que tu l'as découvert, tu ne lâches plus. Et tu n'es plus retournable et tu ne peux pas enseigner d'autre chose que la vérité. Dans ma réponse à ça, je croirais que oui. Mais ce que je dis, c'est qu'au cours de ta vie, si Dieu t'a vraiment sauvé, il va te conduire dans la vérité. Et tôt ou tard, tu vas la découvrir, la vérité, et tôt ou tard, tu vas l'accepter, et tu vas la proclamer, et tu vas l'enseigner. Moi, je prétends qu'une personne qui est restée, il reste toute sa vie, qui étudie la Bible toute sa vie, qui découvre pas ça, je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé, je ne peux pas déterminer si une personne est sauvée ou non, parce que le Seigneur ne nous donne pas ce pouvoir-là de déterminer ça. On ne le sait pas. Mais je serais pourtant à dire... Le Seigneur lui-même, selon ce qu'il dit dans ses propres Écritures, c'est que le Saint-Esprit conduit les régénérés dans la vérité. Conduit les élus dans la vérité. Et dans toute la vérité. Alors, si Dieu peut sauver, si Dieu a sauvé les Arméniens, je dis oui. Parce que je prends mon propre exemple. Quand j'ai été sauvé, on m'a donné un petit Nouveau Testament de Gédéon. Et c'est par ça que je suis venu au Seigneur. Mais j'ai été longtemps mêlé dans ma tête sur le salut. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'était le salut, à qui c'était accordé, c'était quoi la nature de l'œuvre de Christ à la croix, c'était quoi la personne de Christ, qu'est-ce que c'était. Et là, un moment donné, quand tu t'es confronté avec ces idées-là, la souveraineté de Dieu, la prédestination, le décret de Dieu, l'élection, là, ça vient brasser tes idées reçues. C'est ça qu'on m'a enseigné, mais oh, la Bible, qui dit que la parole de Dieu, si t'es un enfant de Dieu, là, c'est précieux, là, c'est la parole à papa. Elle tient sur ton cœur, hein, tu peux pas l'offrir, hein. Ben, c'est la parole du Père. Alors, quand quelqu'un vient me dire quelque chose, ben, regarde, le Père dit ça. Je regarde partout, puis j'étudie, puis j'essaie de comprendre. Mais à un moment donné, je me dis, si quelqu'un est fidèle dans l'étude des Écritures, si quelqu'un prie le Seigneur, on va prendre un exemple bien là, que j'ai à l'esprit. George Miller, quelqu'un très connu chez les chrétiens dans le milieu des frères. George Miller dit dans un document que j'ai ici, je peux vous montrer, que longtemps, dans ta tête, il a combattu ce qu'on appelle l'idée des doctrines de la grâce, la souveraineté de Dieu dans le salut. Et il n'était pas capable de le gérer. Il n'était pas capable de l'accepter. Mais à un moment donné, lui-même dit, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Et j'ai le document ici. Et à un moment donné, le Seigneur fait en sorte que, moi j'appelle ça la technique de l'entonnoir. Faut que tu passes par le petit trou. Alors il te pousse vers le petit trou. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu dis oui, je passe par là. Ben, c'est là que tu dis que la porte est. C'est là que la vérité, c'est là que tu dis. C'est là, c'est de cette manière-là qu'il faut obtenir le salut. Alors là, tout ce qui est faux, tout ce qu'on t'a enseigné qui est faux, puis ne correspond pas aux Écritures, tôt ou tard, Dieu fait en sorte que tu. Ça fait pas bon affaire, je trouve ça dur, mais comme l'idée de l'enfer. Ça fait plus que 20 ans que je suis chrétien, mais quand je pense à l'enfer, là, j'ai encore beaucoup de difficultés à accepter ça. Pourquoi? Si j'y crois, et j'y crois. Il y a des personnes que j'aime, que la Bible m'enseigne, qui seraient là actuellement. Mon père, ma mère, d'autres personnes que j'ai connues, que j'ai aimées, qu'à ma connaissance, n'étaient pas sauvées. Alors ça veut dire qu'ils sont là. Ma mère. Oui, je trouve ça élevé, hein. Je trouve ça très élevé. Alors, si j'ai de la misère à accepter une doctrine comme ça, qui est une doctrine biblique, je l'accepte, je la crois. Je trouve ça difficile à croire. C'est pas que c'est pas difficile, mais la doctrine du salut, puis la doctrine de l'élection, puis la doctrine de prédestination, c'est la même chose. C'est difficile à croire, mais c'est Dieu qui parle. Il faut pas que je pense que je suis capable, par mes propres moyens d'homme, de comprendre les choses qui ont été conçues dans l'Esprit de Dieu, dans son « mind of God ». Moi, j'ai jamais été dans le « mind of God ». Je ne sais pas comment ça se passe dans ta tête. Pas dans sa tête, mais dans son esprit. Puis, il y a des versets qui disent qu'on n'est pas capable. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Impénétrables. Alors, c'est quelque chose qui est au-dessus de ma capacité de compréhension. Mais si je ne suis pas capable d'accepter qu'il y a des choses qui sont au-dessus de ma capacité de compréhension, là, j'ai un problème, parce qu'il faut absolument que j'harmonise, puis que je comprenne les choses selon ma raison. Si je ne comprends pas que ma tête, je ne l'accepte pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui de plusieurs Arméniens, c'est qu'ils ne sont pas capables d'accepter les choses qui sont claires dans l'Écriture, mais vu qu'ils ne sont pas capables de les harmoniser dans leur tête, dans leur raison, ils rejettent. C'est ça l'idée. Autre question?
Monsieur, d'autres questions? Non. Merci. Merci.